plus. Moi, je le repère juste à des exemples. À des...
On peut dire que c'est fragile. En tout cas, ce qui manque, ça serait un éclairage effectivement plus politique ou au moins
sociologique
sur effectivement la manière dont ça, dont le phénomène effectivement se diffuse, se renforce, s'affirme ou se développe aujourd'hui. Donc effectivement, réseaux sociaux, c'est pas simplement chacun sur son téléphone, parce qu'effectivement il y a des serveurs, il y a des modérateurs, il y a des
algorithmes qui vont favoriser telle ou telle expression, telle ou telle qui vont au contraire en invisibiliser d'autres, et ce qui fait que
c'est tout ça est juste, hein, mais je pense on arrive un peu à la fin de l'émission, mais effectivement, de ce point de vue-là, pour le coup, je pense à ce fameux documentaire là, qui était diffusé sur Arte il n'y a pas si longtemps, qui s'appelait La Fabrique de l'ignorance, et qui pour le coup,
à partir du bouquin d'Oresque,
et qui lui, au contraire, décortique de manière extrêmement précise. Mm-hmm. C'était une scène de ce documentaire-là. Alors là, pour le coup, lui, il s'intéresse beaucoup, le documentaire, à tous les canaux privés, en fait, donc les entreprises privées qui, effectivement, ont désormais les moyens. L'industrie du tabac, très connu évidemment, mais aussi les industries chimiques, industries pétrolières évidemment, sur les questions climato-sceptiques, et sur la manière donc effectivement dont ils ont pensé des stratégies. Mais est-ce que c'est des stratégies post-véritistes? Moi, j'ai une question là-dessus, parce que c'est des menteurs. Ce sont des menteurs cyniques et qui mentent sciemment, et d'ailleurs...
Par exemple, elle n'en parle pas de cela dans son bouquin.
Ouais.
Elle ne parle pas de l'industrie du tabac qui va sciemment cacher des informations concernant les effets réels du tabac sur la santé.
Ouais.
Alors que c'est des entreprises de propagande qui mobilisent des milliards de dollars, qui en rapportent encore plus et qui tuent des tonnes de gens.
Mais tu as aussi effectivement un passage dans le documentaire qui est intéressant. C'est le moment, en fait, c'est la manière dont tu as des mathématiciens qui modélisent les interactions sur les réseaux sociaux. Donc, et qui effectivement te montrent comment, effectivement, en anticipant, par exemple, une publication du GIEC ou la déclaration d'une des figures du GIEC, en fait, tu as des contre-offensives qui se lancent, mais qui ne sont pas forcément non plus, si tu veux, c'est pas Elon Musk qui appuie sur un bouton. C'est des communautés qui, si tu veux, en prévision de la vague à venir, commence à bombarder, commence effectivement, tu vois, à essaimer et à bombarder de tweets. T'as un côté épidémiologique qui lui est lié effectivement pour le coup à ce type de à l'horizontalité partielle de ce type de réseau là quand même.
Pas que apparente,
parce que si tu veux, t'as pas un grand ordinateur derrière.
Non, bien sûr que non. Mais c'est pas forcément pour autant que c'est horizontal.
C'est-à-dire,
tu peux avoir une verticalité avec des trucs en conflit en haut.
Oui, mais c'est pas Big Brother.
Enfin, bien sûr que non.
Tu vois,
il s'agit pas de dire ça.
Mais et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Ça, c'est vrai que c'est particulièrement, si tu veux, camouflé ou furtif quand t'es dans un régime démocratique, parce que ça fait partie, en fait, c'est sous couvert de liberté d'expression, etc. Et pour le coup, c'est de la pure fabrique de l'ignorance pareil. Alors est-ce que c'est une post-vérité? Je sais pas. Mais peut-être qu'effectivement, oui, il faut avoir les deux aspects du phénomène, quoi. À la fois la description un peu abstraite, le modèle épidémiologique, je dirais, ce vers quoi elle a l'air de tendre un petit peu, à partir des principes. Et puis effectivement, peut-être aussi un peu plus d'éclairage sur qui a les moyens de d'injecter le virus quand même au départ.
Voilà, on va couper parce que exceptionnellement.
Tu conseilles ou
je sais pas. J'hésite. Franchement, c'est un bon résumé de certains principes avec lesquels je suis d'accord, et ensuite je crois qu'il y en a une application assez calamiteuse.
On perd pas de temps à le dire. On est d'accord.
Si on connaît rien à ces questions, on perd pas de temps à le dire. Elle a fait pas mal de rappels sur pas mal de philosophes.
Elle le fait très clairement.
Elle parle de Putnam, elle parle de Rorty, et donc il y a une espèce d'état des lieux qui, pour certains lecteurs ou certaines lectrices, peut être intéressant. Après, il y a des choses qui risquent de vous faire bondir, mais je vous les ai citées, en fait.
Donc, c'était La Post-Vérité de Claudine Tiercelin, aux éditions Intervalle. Eh bien, on va laisser la place à
Musique en lutte.
C'est ça,
aux chansons en lutte.
Et l'émission est disponible sur les archives, sur le site gurdulu.org. Hein, vous tapez jeudi noir, gurdulu.org, et on vous dit à dans 15 jours.
Voilà, et pour faire le lien avec Musique en lutte, un morceau du tout puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou du Bénin, début 70. Dis-moi la vérité. Et pourquoi ça passe pas? C'est parce que je suis une tanche.
mamo topo, sasa no poe pomburo nana, nana, guado.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
One, two, three, four.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM dans l'émission Musique en lutte que je vais vous présenter. C'est une nouvelle émission, donc c'est le premier épisode. Donc, Musique en lutte, c'est une émission qui va parler de musique et d'engagement politique, qui sera diffusée le quatrième jeudi de chaque mois de 20h30 à 22h. Journaliste indépendante, musicien autoproduit, anarcho-syndicaliste, militant et militante depuis plus de 15 ans, nos parcours sont résolument libertaires et pour l'autogestion. Musique en lutte se fera l'écho des mouvements de contre-culture, aussi bien pour visibiliser les lieux qui résistent de nos jours en squat, en coopérative, à l'horizontale, tout comme les artistes qui ont œuvré en leur temps et de nos jours pour résister face à la marchandisation de tous les pans de la société. Entre archives historiques et actualités musicales engagées, nous nous ferons l'écho libertaire des luttes dansantes. Nous prenons pour slogan les mots d'Emma Goldman « Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution ». Effectivement, chaque révolution a été accompagnée de musique. Nous sommes bien conscients que la révolution ne se fera pas grâce à elle, mais elle lui donne du carburant, elle la font vivre, elle bat le tempo de la révolte. Chaque émission se composera d'un interview sur une thématique précise, accompagnée d'une playlist en lien avec le sujet abordé, une bibliographie, une citographie, ainsi qu'un agenda choisi des luttes et des concerts à venir. Les podcasts seront en écoute et en téléchargement libre sur le site de Radio Libertaire et sur notre site Musique en lutte, musique au pluriel en lutte, tout attaché, .noblog avec un s.org. Vous pourrez également retrouver sur le site les ressources documentaires et la liste des morceaux diffusés. Pour nous écrire, proposer des sujets, enrichir l'émission, notre adresse mail est musique au pluriel en lutte@riseup.net. Nous allons lancer donc le premier sujet. Je vais passer la main à mon camarade Jocelyn.
Aujourd'hui, nous serons avec Alex Ratcharge, activiste de la scène punk française. Il est notamment auteur du roman Raccourci vers nulle part aux éditions Tucitala et du fanzine Ratcharge, qui bientôt sortira le numéro 41. À noter le recueil intitulé Entre un néant et un autre, qui regroupe de nombreux textes parus dans ses fanzines et qui sera réédité fin 2023, début 2024 aux éditions des Mondes Affaires. Ensemble, nous nous sommes retrouvés où se situait l'ancien squat du 13 près de la bibliothèque François Mitterrand pour évoquer la scène punk radicale et avoir une discussion autour de son dernier article paru sur Audimat. Mais tout d'abord, écoutons Poison Corporations, un morceau de House Rotten qui, en 1996, s'empare de la question écologique.
Qu'est-ce qui t'a amené à écrire pour Audimat et ce que t'ont proposé
En fait, c'est parti d'un truc, d'un post sur les réseaux sociaux que j'avais mis, qui était pas très sérieux à la base, qui était un projet comme ça. En fait, j'avais lu Le réalisme capitaliste, qui est l'essai un peu fondateur de Mark Fisher. Et j'avais lu un autre livre qui s'appelle Voler ce livre, qui a été écrit par Abby Hoffman, qui était un activiste de la contre-culture américaine dans les années 60-70. Et en fait, en lisant ces deux livres, ils ont résonné entre eux et ils m'ont fait penser à... En fait, il y a un livre qui parle beaucoup de théorie et un livre qui parle beaucoup de pratique. Et les deux combinés, en fait, ils m'ont fait penser à mon expérience dans la scène punk et à ce que je connaissais et que j'avais vécu des squats, de l'entraide, de prise de conscience, de lutte et tout ça. Et donc voilà, j'avais posté un truc sur les réseaux sociaux en disant un de ces jours j'aimerais bien faire un article qui essaierait de relier Mark Fisher à Abby Hoffman et la scène punk radicale. Et donc il y a un mec d'Audimat qui a lu ce post que j'avais mis et qui m'a dit ah bah chiche, vas-y fais-nous le pour Audimat. Et donc je l'ai pris au début, j'étais là, ah, merde. C'est... Je savais pas si j'étais capable de le faire parce que comme je suis pas quelqu'un qui est très versé dans la théorie, et, mais j'ai essayé quand même et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ouais.
Elle est intéressante, je crois qu'il y a le pont entre pas mal de choses, quoi. Entre justement les théories de Mark Fisher, ou aussi bah, tu fais des brèves historiques de punk, tu donnes des exemples un peu de ce que tu as pu connaître et tout. Et bah voilà, tu balayes quand même pas mal de sujets. Notamment, bah, tu peux nous un peu dire comment tu as, dans le bouquin, tu as pu définir ce mouvement que tu qualifies d'anarcho-punk ou de punk radical, ou qui porte plusieurs noms. Mais... un peu pour nous aider à situer un peu de quoi on va parler.
Ouais, moi, en fait, c'est vraiment comment dire. Donc là, on fait ça pour une émission de radio qui apparemment sera écoutée par des gens qui écoutent plein de types de musique. Ou, ça me paraît nécessaire de préciser que, en fait, quand on parle de punk, et quand on dit la scène punk, en fait, c'est vraiment une... comment on dit, enfin, pour moi, ça veut rien dire du tout, quoi. C'est vraiment, il y a une infinité de scènes punk, en fait, comme dans tous les styles musicaux, j'imagine, ou la plupart. Et moi, vraiment, ce dont je m'inspire et ce dont je viens, c'est ce qui a été appelé, on a appelé ça beaucoup punk DIY pour do it yourself, donc fais-le toi-même. Ça, c'est pas mal appelé anarcho-punk. On pourrait appeler ça du punk de squatter, etc. Et moi, pour je trouvais tous ces termes un peu réducteurs ou un peu pour... ils me posaient tous problème et que je les ai utilisés au fil du temps. Mais là, je m'étais dit que punk radical, ça permettait de... C'était un terme, moi, que j'ai pas inventé, hein, qui vient de... Moi, je l'ai lu chez des Espagnols la première fois, les premières fois. Et je trouve que, voilà, il fait bien le lien avec la gauche radicale et puis il permet de tracer une ligne un peu, quoi. Enfin, il y a... Moi, j'écoute plein de punk qui appartient pas à, à ces façons de faire et tout ça. Mais par contre, ce que je côtoie, oui, je considère que c'est des gens qui mélangent radicalisme politique et musique. Quoi.
Il y a eu plusieurs, ça, qui a eu plusieurs phases un peu dans Continuum Punk, un peu, dans son histoire. Ouais. Ça a commencé dans les années 70. Bah, avant ça, il y a eu un peu le mouvement hippie. Ensuite, du coup, il y a ce punk aux États-Unis qui a commencé à se former. Après, on a par exemple le groupe Crass qui en 78 dit le punk est mort. Et ensuite arrive du coup cette scène France 70 début 80, un punk hardcore. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de cette évolution qu'il y a eu et comment peut-être ça a démarré un peu ce mouvement dans les années 80?
C'est dur parce que c'est super vaste. Ouais. Et que.
Parce que notamment, il y a eu ce moment avec à Berkeley ou la création de radio et de fanzine, par exemple.
Ouais, moi, disons que la scène, en tout cas d'où je viens, celle qui m'a parlé le plus, effectivement, c'est ça va partir beaucoup. Enfin, le premier truc qui me traumatise, moi, il y a deux choses, quoi. Il y a les squats parisiens que je découvre vers 18 ans, les squats vraiment punk, enfin anarcho-punk, ou voilà, comme on disait, punk radical, etc. Et en parallèle, il y a des trucs qui viennent des États-Unis. Donc il y a ce fanzine Maximum Rock'n'Roll qui était un projet collectif. Quand je dis collectif, c'est genre une centaine de personnes. Tout le monde était bénévole et qui sortait tous les mois. Qui avait été une émission de radio d'ailleurs à la base, mais qui est toujours aujourd'hui une émission de radio, mais plus un fanzine. Le fanzine s'est arrêté il y a quelques temps. Mais bon, ils ont sorti ça pendant quand même 40 ans tous les mois, quoi. Moi, j'y ai participé pendant quasi 10 ans. Et en fait, Maximum Rock'n'Roll, la particularité, c'est que c'est créé par un mec qui vient plus de la contre-culture hippie à la base, qui est un marxiste avec des avis très tranchés sur les choses, et qui, en fait, se met à partir d'un moment... dès le début, en fait, quand ils fondent Maximum Rock'n'Roll, il y a une scission à cette époque. Il y a toujours eu des tonnes de scissions dans la scène punk, mais en fait, il y a une grosse scission entre ce qui est plutôt d'ordre réactionnaire et ce qui est d'ordre progressiste, quoi. Et Tim Yohanan, le fondateur de Maximum Rock'n'Roll, d'entrée, non seulement il se place du côté progressiste, alors quand je dis progressiste, c'est par exemple, c'est des trucs... féministe, antiraciste, anti-homophobie dès les années 80. Et voilà, il se place là, mais direct en mode très conflictuel, quoi. Enfin, il attaque, c'est un fanzine.
Dénonce les autres pratiques, peut-être aussi.
Comment ?
Dénonce des pratiques qui sont.
Il dénonce beaucoup de pratiques. Il nomme les gens dont les pratiques lui plaisent pas, et puis aussi voilà, ils essayent. Enfin, parce que là, je me focalise un peu sur lui parce que c'était vraiment une personnalité assez marquante. Mais bon, on va le dire au pluriel, ils et elles essayent de montrer par l'exemple, quoi. Voilà, de dire.
Et ben, qu'il comprend pas.
Par exemple, je sais pas moi, on sort ce fanzine, il fait 100 pages et il vaut que 2 $ parce que pourquoi il vaut 2 $ Bah, parce qu'on veut que. Le lectorat qu'on vise, c'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Donc voilà, ça pour moi, c'est une grosse influence. Et à un moment dans ma vie, je commençais à lire ça. À l'époque, on pouvait le choper dans quelques disquaires. À l'époque, je traînais entre Paris et Rennes. Donc je découvre ça dans les disquaires. C'est vraiment un truc énorme. Tu vois qu'à l'époque, moi, j'écoutais, je sais pas, NoFX et les Salles Majestés, quoi, des trucs de punk que tu connais ado, pré-internet, tu vois. Enfin, et là-dedans, tu découvres, mais c'est que des groupes, mais des tout petits groupes du monde entier, d'Indonésie à la Californie, en passant par la France. Et c'est vraiment, ça met en avant ce qu'on appelle le réseau DIY, et qui est connecté, qui est un truc assez fou, et que moi, je découvre par Maxi Rock'n'Roll. Et à un moment, je me rends compte qu'il y a des squats à Paris qui font jouer les mêmes groupes à propos desquels je lis là-dedans. Et là, ça connecte les deux, et donc je vais voir dans ces squats. Et là, c'est vraiment le... Comment dire, c'est le. J'étais déjà allé dans des concerts dans d'autres endroits, dans des, je sais pas, MJC, des bars, des trucs comme ça. Mais quand je découvre le squat du 13, notamment, qui est là où on est maintenant, là, à la bibliothèque François Mitterrand, c'est vraiment un choc, quoi. C'est ce truc, tu sais que t'as trouvé ce que tu cherchais, quoi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. J'arrive là-dedans, je suis. Comme un gamin à Noël, quoi. Enfin, un gamin qui arrive à Euro Disney, tu vois. Enfin, c'est vraiment tout est voilà, c'est pas cher. C'est les gens te parlent, les groupes. Enfin, les groupes sont bien. Les groupes correspondaient à ce que je voulais voir. Et puis tu vois toutes ces pratiques. Tu sais que le mec derrière le bar, au final, c'est le même mec qui est avec toi devant le concert à regarder les groupes. Et puis tu très vite, moi, je sens que. Je comprends très vite, en fait, parce que aussi les gens qui organisaient ça essayaient de te le faire comprendre. Moi, en tant que gamin de 18 ans, je comprends très vite que si je veux m'investir, je peux. C'est-à-dire, à cette époque, je commence mes premiers groupes. Et d'ailleurs, c'est même pas moi, je crois, qui demande, c'est eux qui nous demandent. Moi, j'étais arrivé là-dedans avec mon fanzine, je leur ai donné, donc ça avait fait un lien direct. Puis super vite, ils ont demandé au groupe où je jouais de jouer à une soirée, mais nous, on n'avait jamais joué nulle part. On était super content de jouer là. Et puis très vite, tu te mets à. Je sais pas, tu sais, il y a un moment, t'as un pote aux entrées, et puis, je sais pas, mais ne serait-ce qu'un truc aussi con qu'il va pisser un coup et il te dit, ah tiens, tu peux me tenir les entrées 5 minutes, quoi. Et très vite, tu te mets à faire des trucs.
Il y a ce que toi, tu nommes école alternative, ou Fischer, il appelle plus ça un incubateur de conscience.
Ouais.
Et c'est, ça passe-tu du coup par un système un peu horizontal, quoi, où... Tous les rôles sont mélangés,
totalement.
Tout le monde peut amener la main à la pâte. Oui. Et t'en parles aussi, est-ce que t'es allé à justement, t'as rencontré un peu c'était la Berkeley ou enfin pour de ce fanzine, comment il se fait, tu décris un peu, voilà, très vite, boum, t'as les mains dedans et puis on te propose de faire ci ou ça.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est quelque chose qui paraît essentiel dans cette scène.
C'est essentiel, c'est basé sur d'ailleurs, il y avait beaucoup de groupes, peut-être un peu moins maintenant, je sais pas, mais à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de groupes qui incluaient ça dans leurs paroles et qui le disaient sur scène et qui mettaient des notes dans leurs disques pour bien préciser ça, pour encourager les gens à faire des choses. Parce qu'en fait, on est dans une scène, voilà, quand on parle de ce type de punk, on est dans une scène où vraiment, si personne ouvre de lieu, si personne fait de groupe, si personne fait de fanzine, enfin, elle tient qu'à ça, en fait, quoi. Ça tient que aux volontés. Individuelle et collective de faire des choses. Donc très vite, quand t'es, comment dire, moi à l'époque j'étais vraiment, je sais pas comment dire ça mieux, que j'étais amoureux de cette musique, tu vois, c'était ma passion, j'en écoutais du matin au soir, je lisais dessus, j'en jouais, je faisais des fanzines, et donc évidemment j'avais envie qu'elle vive, quoi, j'avais envie qu'elle, et donc quand t'as cette envie là, bah très vite t'en viens à faire des choses. Et et moi ce que j'ai adoré là-dedans assez vite, c'est que en fait tu fais des choses, mais t'as aucune obligation, et tu fais ce que t'as envie de faire, et chacun en fait un petit peu, et chacun est sur un pied de, chacun et chacune est sur un pied d'égalité, Et moi, c'est, effectivement, c'est ça mon éducation, quoi. C'est ça mon incubateur de conscience, comme dirait Marc Fischer. Moi, c'est par la pratique que ça passe, quoi. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des fois, je suis un peu méfiant des militants politiques purs et durs ou des gens qui vont avoir vraiment un discours avant tout et qu'on voit pas faire grand chose. Moi, j'essaie au maximum de ne pas avoir de discours, en fait. Même des fois, un peu par provocation, ça m'est arrivé de dire en rencontre, selon les lieux où je suis, si je sais que ça va énerver des gens que j'aime pas, je dis non, je ne fais pas de politique. Après, bon, au fond, je sais très bien que...
Les pratiques
sont politiques, mais... voilà, en tout cas, moi, tout ça, ça passe par l'exemple et ça passe par le faire. Et en fait, dans ces milieux-là, que ce soit à l'époque ou maintenant, je le dis dans l'article, d'ailleurs, t'as des gens qui... T'as des gens qui vont être très clairement alors tout ce que tu veux, des anarchistes, des communistes libertaires, des conseillistes, des communistes, des etc., etc. T'as des gens qui n'ont aucune étiquette, t'as des gens qui vont être des autonomes, t'as même des gens qui votent, tu vois, enfin qui tous les 5 ans ils vont voter, et puis enfin ce truc très classique, très normal. Mais en tout cas, tout ça, je sais qu'on en... Moi, en tout cas, j'ai pas souvenir qu'on en parlait beaucoup. C'était vraiment... On était tous d'accord sur le fait que vraiment le fameux triplet racisme, sexisme, homophobie, et maintenant on pourrait rajouter transphobie, un peu des... Mais bon, ça rentre dans l'homophobie, on va dire. Ce fameux triplet, on était tous d'accord pour dire que, ouais, effectivement, on se reconnaissait là-dedans, dans le fait d'être contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme, et tout, et qu'il fallait faire des choses là-dessus. Mais sinon, on n'avait pas de... Notre seul projet politique, c'était de faire vivre le punk, quoi. Et dit comme ça, ça peut paraître limité. Moi, je trouve au contraire que ça a été une super école, quoi. Parce que c'est tout à la passion et c'est tout à l'envie, quoi. C'est tout à... Moi, j'ai toujours dit, je fais rien dans ce milieu. Tu vois, ça fait 20 ans que je fais de l'activisme dans ce milieu et je fais jamais rien si j'ai pas envie de le faire, quoi, en fait. Il se trouve que j'ai toujours envie de faire plein de choses, donc ça tombe bien. Et j'encourage les gens, moi quand on me dit ah je sais pas trop, je dis, si t'as pas envie, fais pas. Faut pas, parce que du coup c'est un milieu qui carbure à cette espèce d'énergie positive et de passion, quoi. Et voilà, je trouve c'est assez spécial.
Et maintenant, gardons les oreilles alertes avec un morceau d'Appalachian Terror Unit au titre plus qu'évocateur « We will continue to break the law and destroy property until we win ». We'll be right back.
d'où aussi l'importance des lieux, donc tu parles aussi un peu, et que c'est un peu les lieux qui vont façonner un peu toutes ces pratiques, ou qui vont leur donner l'occasion de se faire. Tu prends plusieurs exemples, notamment par à Copenhague où tu as pu aller, il y avait ce quartier ou ces lieux.
Ouais, une dame chusson.
Ouais, qui est assez dur à prononcer. Ah,
ouais. je fais genre, mais je le prononce peut-être pas bien. Mais oui, oui.
C'est marrant de voir à quel point, oui, voilà, s'il faut des lieux comme ça pour que ça existe et que ça perdure. Sans...
Ouais, moi, ça me paraît vraiment le nerf de la guerre. Quoi. C'est, plus le temps passe, plus pour moi. Je pense que même si j'arrêtais, je sais pas, c'est complètement improbable ce que je veux dire, mais même si j'arrêtais d'écouter de la musique. Si je m'en foutais totalement, si je pense que ça resterait important ces lieux. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais totalement continuer de m'investir dans des lieux comme ça, sans, enfin, juste pour ce que ça crée et pas forcément.
Ouais, sans l'aspect musical. Mais
pourrais, ça contredit peut-être un peu ce que je disais avant, mais c'est aussi avec le temps où je me rends compte vraiment que sans lieu, en fait, voilà, t'as une ville, t'as pas de lieu, il se passe rien, quoi. C'est aussi simple que ça. Après, quand je dis lieu, ça peut être. Je sais pas, ça peut être le salon de chez quelqu'un, ou ça peut être une laverie automatique où tu vas faire des trucs. Je pense qu'il faut être inventif là-dessus. Et pas, évidemment, ça peut être des squats. Les squats, c'est le meilleur exemple et le plus connu et le plus classique. Mais t'as des gens qui vont faire, je sais pas moi, des. Comment ça s'appelle dans l'Est, t'as un documentaire là qui est sorti, qui est super, sur ce qu'on appelle la Grande Triple Alliance de l'Est, qui est un gros collectif complètement foutra, qui est pas très identifié de. Plein de groupes, alors pas forcément de punk, c'est plus, ça mélange une sorte de punk un peu expé, des groupes juste expé, chelou, enfin plein de styles en fait, et où bref, t'as ce documentaire sur eux, donc qui s'appelle juste La Grande Triple Alliance de l'Est, et où tu vois qu'à l'époque, ils avaient pas de lieu, ils avaient pas de bar assez bien, ils avaient pas de squat, et ils allaient. Pendant toute une période, ils faisaient des concerts sous un pont au bord de l'autoroute et avec un groupe électrogène et bim quoi. Et rien que ça pour moi c'est un lieu quoi. Enfin, c'est-à-dire.
Ouais, qu'il soit temporaire ou pas.
Ouais, voilà, qu'il soit temporaire, qu'il dure un jour ou il y a des squats comme ça aussi. Je sais qu'à Lyon, ça nous est arrivé de voir des squats qui durent 5 jours. Quoi. 5 jours, 5 concerts, bim. Ah, et on se casse quoi. Voilà. Et ça, tu vois, j'ai l'impression moi de dire. Enfin. Je trouve que c'est intéressant de parler de ça, tu vois, mais j'ai aussi l'impression de dire un peu un lieu commun, tellement pour moi c'est, enfin, c'est central. Je vois, voilà, si on n'a pas de lieu, bah, par les temps qui courent, qu'est-ce qui se passe? On a une scène qui est sur Internet, quoi. On a une scène où on va aller dans des lieux qui ont des vigiles, qui ont des entrées chères, qui s'en foutent, enfin tu vois, qui vont faire jouer n'importe quel groupe, peu importe ses idées, peu importe.
On le voit bien à Paris où il y a de moins en moins déjà de squats et de soirées. Et voilà, de plus en plus on peut trouver des soirées punk ou hardcore qui se passent dans des lieux plus typés, club ou quoi, avec entrée payante, vigile et tout, comme tu dis quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'il y a une évolution un peu là-dedans. Là, toi t'es plus basé sur Lyon.
Ouais.
Que tu peux un peu nous parler un peu de comment ça se passe là-bas à ce niveau-là, quoi. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers ou des manières de faire qui perdurent ou qui arrivent à se maintenir?
Déjà, je trouve ce qui est très différent pour moi Enfin, déjà, en fait, Lyon, c'est forcément différent de Paris vu que c'est plus petit et c'est plus petit et moins grand. Mais. Un truc déjà qui différencie les lieux à Lyon des lieux à Paris, c'est qu'on a quelques lieux où tu peux traîner hors concert, quoi, où tu peux te retrouver, où tu peux passer toute la nuit, etc. Et rien que ça, pour moi, on a comment dire. Moi, je suis parti d'un infoshop qui s'appelle La Lutine depuis 15 ans. Donc, un infoshop, quand je dis ça, c'est un lieu où voilà, tu vas avoir. On fait une permanence tous les samedis depuis 15 ans et on ouvre à tout le monde et on fait circuler des disques, des fanzines. Tu peux venir te poser, tu peux boire du café gratos. Il y a un atelier de sérigraphie dedans, il y a plein de choses. Et ce lieu notamment, pour moi, est très important. Il est très important, pas pour tout ce que je viens de dire, pas tant pour la sérigraphie, les livres et les disques qu'on distribue, mais parce que c'est un endroit régulier où les gens peuvent se retrouver en fait. Tous les samedis entre 14h et 18h, c'est ouvert. Et souvent, ça c'est les horaires officiels, mais très souvent on déborde, ça arrive souvent qu'on passe toute la nuit là-bas, quand il n'y a rien d'autre à faire. Et en fait, je trouve d'avoir un rendez-vous régulier comme ça, c'est super important. Enfin, et c'est pas un lieu où il y a des concerts, en fait, c'est vraiment un lieu où se retrouver. Et je sais que dans la scène punk de Lyon, il y a un paquet de groupes qui se sont formés là-bas, des après-midi où les gens parlent.
Se rencontrer,
voilà, qui se rencontrent, je sais pas, un nouvel arrivant en ville, hein, ou une nouvelle arrivant qui va dire ah tiens, moi je fais de la batterie, je me fais chier, il y a pas quelqu'un. Et puis, ah bah si, moi justement je cherchais. Et voilà, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés là-bas. Donc ça c'est un lieu important. Après un autre lieu important. Pour moi, ça va être Ground Zero, donc à Vau-en-Velin, toute proche périphérie de Lyon, et qui est un lieu, alors pour le coup, qui brasse beaucoup plus de gens que la Lutine et qui est beaucoup plus grand, mais qui va avoir, qui est un lieu, comment dire, qui a reçu un soutien de la ville au début pour faire des travaux et machin, mais qui depuis n'a plus de subventions et fonctionne. Grosso modo comme un squat quoi, avec un peu plus de responsabilité, un peu plus de factures on va dire, notamment d'électricité et de flux de bière. Mais voilà, où tout le monde peut faire les choses et où tout le monde peut rentrer, où ils font pas de sélection par l'argent, comme où voilà, même si t'as un prix d'entrée, tu peux toujours aller dire ouais, ah, j'ai pas assez. Moi ça c'est un truc qui est très important pour moi et dont je trouve on parle pas assez. Je fais une petite parenthèse, mais vraiment l'argent en fait. C'est comme dans plein de milieux, c'est toujours un sujet tabou. Et je trouve que ça doit être le moins possible parce que vraiment, c'est. Enfin, moi, clairement, j'organise un concert, je ne veux pas organiser un concert pour des bourges. Tu vois, si des bourges veulent venir, très bien pour eux, ils sont bienvenus, hein, a priori. Mais par contre, il faut que tout le monde puisse rentrer. Moi, c'est très très important, je trouve, pour qui tu vas ramener.
Ouais, ça brasse différents types de publics. Ça...
Voilà, ouais. Il
faut. Mélange culturel ou quoi.
Ouais, ouais. Et voilà, en tout cas, la sélection par l'argent, c'est non. Et moi, voilà, encore une fois, ce truc d'éducation par le punk, moi, j'ai connu ça comme ça et j'envisage pas les choses autrement. Et pour revenir à Ground Zero, ouais, voilà, c'est un lieu qui est quand même très grand, qui a du bon matos, qui permet de faire aussi bien un concert avec un groupe un peu connu à 500 personnes sur une scène un peu grosse ou un truc XP qui va ramener 20 personnes et le tout dans les mêmes conditions avec le même accueil, avec des chambres pour les groupes qui dorment, avec un bar. Et après à Lyon, moi ça c'est vraiment mes deux lieux, sinon on pourrait, il y en a d'autres mais ça va être plus des bars, des choses comme ça, y compris des trucs très chouettes, mais qui.
Il y a l'amicale
du futur, notamment. Voilà, t'as l'amicale du futur qui est vraiment un lieu qui a été ouvert il y a 3 ans à peu près, qui fait aussi un peu des concerts de temps en temps, mais c'est pas ça leur but. C'est plus un accident presque, ils font des concerts parce qu'il n'y a pas tant de lieux et que voilà, des trucs pas trop bruyants, quoi. Mais c'est aussi un bar associatif avec des visées politiques assez et sociales assez claires et qui fait toujours des choses pas chères, qui fait des repas, qui fait des cantines vraiment abordables par tout le monde avec différents prix selon si t'es chômeur, si t'es précaire et t'as pas à montrer ta carte de chômeur quoi. C'est juste voilà, tu choisis quel prix tu veux payer et qui voilà, ça c'est un lieu qui remplit un peu le même rôle pour moi que la Lutine, qui permet aux gens de se regrouper et encore une fois, c'est un lieu où tu peux venir sans argent, tu peux venir sans consommer, tu peux rester tout ce que tu veux, personne ne te dira jamais va-t'en quoi. Et ça pour le coup à Paris, de ce que je parle avec des potes d'ici, c'est quelque chose qui manque quoi. À Paris.
Des endroits mais très peu ouais, qui font ça, ou alors bon lieu peut-être plus.
Tu penses à rien, toi, t'as des trucs quand même.
À Ivry, ou après aussi dans le 20e, il y a des endroits voilà, où il y a des cantines où tout le monde peut venir comme ça,
ouais, d'un coup de main. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est vachement important. La thune, faut en parler. Enfin, le côté économique des choses. Je dévie un peu de ta question, mais tu vois, même les trucs de comment payer les groupes, comment tout ça, faut pas avoir peur d'en parler et de confronter des points de vue et tout ça, parce que je pense qu'on est élevé de façon à ce que la thune soit toujours un tabou. Tu vois, combien tu gagnes, combien gagnent tes parents, combien
machin. Ça finit par diviser un peu.
Si on n'en parle pas, ça finit par diviser, quoi. Je pense qu'il faut mettre les choses clairement. Et si on pense que les groupes doivent être, par exemple, payés plus ou payés moins, ou qu'on a des arguments pour ça, faut pas hésiter à les confronter avec les autres. Et ça ne devrait pas être plus tabou qu'autre chose. Et au contraire, c'est un des nerfs de la guerre, je trouve. L'argent, malheureusement. Ouais. Malheureusement, c'est pas mon souhait, c'est pas mon... mais bon, c'est comme ça.
C'est un lieu vers Villeurbanne, tu me dis, qui est aussi... Qui,
Oui, c'est ça. Depuis quelques années, il y a un squat à Villeurbanne. C'est suffisamment... Enfin, il y a un squat de concert, ce qui est suffisamment rare pour le noter, par les temps qui courent à Lyon, qui s'appelle le Tout en Chaos et qui est un squat vraiment de punk à l'ancienne, avec des chiens et tout ça, mais qui est très bien et qui fait beaucoup de concerts, qui a un bon esprit et qui a vraiment cette... Enfin, en fait, qui comble vraiment un vide pour parce que Ground Zero, par exemple, peut pas prendre tous les concerts de punk, ou alors tous les punks veulent pas toujours faire leur truc à Ground Zero pour X raisons. Et eux font jouer beaucoup de groupes en tournée qui, franchement, ne joueraient pas ailleurs à Lyon si ils étaient pas là. Et donc, ils ont la chance, entre guillemets, d'être tombés sur un lieu où il y a des embrouilles d'héritage et qui fait que ils arrivent à tenir. Là, ça fait quelques années, et voilà, on va leur souhaiter tout le...
Ça va
durer de nombreuses années encore. Voilà.
C'était le groupe bordelais Faucheuse avec leur titre « Ville interdite » sorti au mois d'avril dernier. Et toujours sur le thème de l'urbain, voici les failles du groupe « Zone infinie » de Villeurbanne.
Oh,
De revendications, d'autres comme tu nous le dis un peu, il y a pas, t'es plus dans l'action que la revendication, peut-être pure et dure, mais je pense qu'il y a quand même des encore peut-être des sujets qui sont portés ou des sujets plus modernes ou en tout cas peut-être qu'il y a des problématiques qui se posent plus maintenant dans ce milieu-là plutôt qu'avant ou comme tu dis il y avait eu des scissions par le passé. Comment tu dirais, est-ce que maintenant ça continue à se questionner dans ce milieu-là ou à mettre des choses en avant qui n'étaient pas là forcément avant?
Ce qui est sûr, c'est que le milieu a changé. C'est un milieu qui est un petit peu vieillissant. Moi, le milieu dont je parle, que je connais, quoi. Pas que, ça dépend des endroits, mais. Ou attends, je vais reprendre en fait, parce que c'est vraiment. C'est compliqué de théoriser sur ce milieu et tout ça, parce que déjà tout est très différent de ville en ville, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, là je me rends compte, je disais, bah il n'y a pas de jeunes, enfin c'est un milieu vieillissant, mais en fait non, il y a certaines
ici,
villes.
Non, le contraire, ici un peu.
Ici il y en a, ouais. Bah ouais, et vraiment ça dépend, et notamment j'ai vu depuis le Covid, dans plein de villes, les gens ils disaient, ah tiens, d'un coup il y a plein de gens plus jeunes qui viennent, comme s'ils avaient découvert le punk ou découvert tel style de zik pendant le Covid sur internet et qui crevait la dalle de venir. Et c'est vrai que là depuis 3-4 ans on a beaucoup de gens au concert, et quand je dis on, c'est un peu, c'est même pas que à Lyon, quoi. Moi je bouge pas mal en France et je parle à des potes et tout ça, et tout le monde me dit un peu pareil qu'il y a quand même un renouvellement. Après comment ça a changé, ouais, je te dis, moi pour moi c'est trop dur, c'est trop abstrait en fait. Je peux pas,
par exemple, est-ce que t'as vu des nouvelles choses apparaître dans la scène peut-être depuis je sais pas, depuis ces dernières années peut-être, ou les...
Un truc qui m'a étonné et qui continue de m'étonner, c'est que moi, quand j'ai découvert cette scène, on avait déjà, donc quand j'ai découvert cette scène vers 2000, quoi, on avait déjà des revendications qui sont très mises en avant aujourd'hui, y compris dans les trucs grand public, sur le féminisme, sur moi, le terme queer, je découvre ça dans la scène punk en 2001, tu vois, en allant à un festival queer punk dans un lieu qui s'appelait Alternation. Et ces thématiques-là, j'ai l'impression qu'à un moment, quand je dis on, c'est vraiment cette scène-là, on s'en était emparé. Et moi, à l'époque, alors peut-être c'est que je regardais pas bien ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai parlé que là-dedans. Et c'est des choses qui, avec le temps, comme on le sait, sont devenues plus sur le devant de la scène, et ce qui est très bien, hein, tu vois, ce qu'on appelle la quatrième vague féministe, ou les problématiques sur les trans, les problématiques queer, enfin je dis problématiques, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas les thèmes, les sujets sont très mis en avant aujourd'hui, moi je trouve ça très bien. Par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que la scène punk dont je parle, j'ai l'impression, il y a eu un phénomène du fait que ce soit plus mis en avant. C'est presque comme si y a une partie des gens qui se sont dit bon bah maintenant ça c'est fait, quoi. Enfin, on a passé le flambeau ou je sais pas quoi, et ou presque c'est du coup plus mis en avant ailleurs maintenant que dans des parties de la scène punk que je connais et que j'aime. Ouais. Quoi. Ça me fait un peu bizarre des fois, mais bon, après perdu, les trucs, les sujets, enfin tant mieux, moi tant mieux si ça touche plus de gens. Après, des fois je trouve que la scène punk peut un peu se reposer sur ses acquis, oui, là-dessus. Et se dire, ah bah nous, de toute façon, on a déjà réglé ça il y a 20 ans, alors que pas du tout, c'est des sujets tellement compliqués, et c'est des trucs qui... c'est des sujets sur lesquels il faut se remettre constamment en question.
Il n'y a pas d'acquis.
Il n'y a pas d'acquis, c'est pas comme si on avait fait une révolution, quoi. C'est... Mais voilà.
Il y a le sujet peut-être des fois des migrants ou des sans-papiers qui a été qui est un peu plus explosé maintenant. En tout cas, je le vois souvent, des soirées en soutien.
Oui, ça, t'as des soirées en soutien. Ouais.
Peut-être avant, le sujet était moins présent, donc ça fait un sujet peut-être un peu qui ressort maintenant.
Il était moins présent, mais ça, pour le coup, je pense que c'est partout. Enfin, c'est-à-dire que nous, dans le punk, je trouve, on a évolué en même temps que le reste de la société. Quoi. Le thème... comment dire, le thème des migrants est beaucoup plus en avant maintenant, et donc moi sur ça je trouve qu'on a suivi le reste de la société, à part certaines franges vraiment des squats qui étaient entre des squats de Toto, donc d'autonomes, et de punk qui mêlaient les deux au début des années 2000 à Paris. Je sais qu'il y en avait beaucoup, enfin il y en avait certains, il y a toute une frange de ça qui faisait de... Enfin, où clairement, ça mélangeait des migrants et des punks et des autonomes et des toughers. Il y avait beaucoup d'accueil de migrants, mais c'était pas non plus, je dirais, le thème le plus... Enfin, tu vois, clairement, les gens étaient contre les frontières et tout ça, quoi. Mais c'était plus, c'était pas aussi concret que ça l'est maintenant avec les soutiens aux migrants qu'on voit, les gens qui ouvrent des squats pour les migrants, etc. Quoi. Sinon, juste pour... dans les choses qui ont changé aussi, enfin, c'est vraiment cliché de le dire, et c'est pour ça que j'ai presque oublié, mais en fait, il y a eu Internet qui est apparu. Enfin, moi, je découvre tout ça, vraiment, on est au début d'Internet, donc c'est presque comme si, tu vois, on n'a pas de téléphone, pas de... Enfin, voilà, quoi, on y va très peu. Moi, je passais une demi-heure par jour sur Internet, sur un vieil ordi, etc. Et donc, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout ça, et en fait, il y a eu un côté, mais ça... Malheureusement, le punk a été aussi touché que le reste de la société, mais je trouve... On a aussi dans le punk assisté à un mouvement où chacun a tendance à devenir un peu à fonctionner comme une entreprise, comme si soi-même, chaque personne était une entreprise, quoi, avec ce truc. Alors, de...
Ça, c'est un peu ce basculement entre DIY qui est tombé un peu dans l'auto-entrepreneuriat.
Un peu, ouais.
On a pas mal qui parlent de ça aussi.
Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est un sujet compliqué parce que. Il y a plein de cas, quoi, et il y a des pratiques qui me saoulent quand les gens deviennent trop opportunistes, trop visiblement commerciaux, quoi. Mais il y a aussi derrière ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la France, enfin dans le monde évidemment, mais dans la France en particulier, et notamment le fait que à une époque, tu vois, c'était beaucoup plus facile dans les années 80, 90 et même début 2000. Par exemple, c'était beaucoup plus facile d'avoir le RSA, d'avoir le chômage, des choses comme ça. Enfin, dans le punk, tu vois, c'était plus de la moitié des gens, quoi, qui ne travaillaient pas et qui, en fait, s'en sortaient malgré tout. Il y avait des loyers moins chers. Enfin, tout s'est beaucoup durci depuis. Et donc, je ne veux pas jeter la pierre trop vite aux gens qui... En fait, voilà, quoi, qui... se disent d'un coup, bon, bah, c'est quoi le... Est-ce que je continue à faire les choses vraiment par passion en ayant un boulot à côté, en étant du coup de plus en plus forcé de travailler, ou est-ce que je me dis, bon, bah, je vais essayer de faire un peu d'argent avec ça, avec ce que j'aime, en essayant de rester éthique, quoi. Et j'ai d'autant plus de mal à avoir un avis là-dessus que moi-même, je suis dans un espèce d'entre-deux maintenant, avec mes bouquins, avec des traductions, clairement, je vis pas du punk, hein. Je vis de traduction et tout ça, mais je gagne un peu d'argent des fois par des activités liées au punk. Donc forcément, c'est dur aussi d'être super critique.
Il y a une réalité qui est là aussi, de toute manière. On n'a pas tous le choix de faire comme on veut, quoi.
Non, non.
life to gain. God has created is a modern nightmare. Planned for extinction for 100 fucking years. Taught to be responsible, but driven to consume. It's just a longer journey to the expected doom. And what we've created is a modern nightmare. Planned for extinction for 100 fucking years. Taught to be responsible, but driven to consume. It's just a longer journey. Desperation! What we've created is a modern nightmare. Bound for extinction for 100 fucking years. Taught to be responsible, but driven to consume. It's just a longer journey to the expected doom. And what we've created is a modern nightmare. Bound for extinction for 100 fucking years. Taught to be responsible, but driven to consume. It's just a longer journey. Traded in the name of progress. We are running straight into the wall. Who's gonna be there to watch the fall?
C'était Modern Nightmare des Bretons de Toxic Rite, également sorti cette année. Enchaînons avec une autre pépite du groupe Kassarat, groupe tunisien vivant à Montréal, qui vient de sortir un EP traitant de la crise migratoire.
Dernier petit sujet pour revenir un peu, moi ça m'avait passionné un peu toute cette le travail de Mark Fisher un peu, dont tu t'es appuyé pour ton article. Mmh. Et en quelques mots, est-ce que tu peux décrire avec tes mots aussi ce que tu as compris de ce concept de réalisme capitaliste, mmh. de lui ce qui en découle, avec pour lui ce qui pourrait être une sorte de solution, une évolution, ça serait l'acide communisme. Mmh. Et peut-être par là aussi, du coup, expliquer un peu comme il le fait, cette convergence entre des milieux artistiques et esthétiques et le milieu par exemple hardcore punk, ou en tout cas des...
Ouais, ouais. Bah, c'est compliqué de résumer Fisher. Hein, c'est un mec qui parlait vraiment de tout type de sujets, qui pouvait aussi changer d'avis, qui n'avait pas honte de changer d'avis, ce qui pour moi est très... Comment dire, c'est une marque d'intelligence. Hein. On dit il y a que les cons qui changent pas d'avis, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui questionnait, qui remettait tout le temps tout en question, etc. Donc le résumé, ça va être dur. Après, déjà le réalisme, ce qu'il appelle le réalisme capitaliste, qui est le titre de son premier essai, est vraiment le truc, le livre central dans, on va dire, dans son œuvre, c'est presque un synonyme de néolibéralisme. C'est une façon de dire qu'en fait, que c'est une façon de parler du, comment dire, du fait qu'en fait le capitalisme aujourd'hui nous paraît inévitable, tout simplement, quoi. Il y a cette phrase qui est souvent citée et qui on ne sait pas vraiment toujours à qui l'attribuer. Il y en a qui disent que c'est à Slavoj Žižek, qui est c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et ça, c'est une phrase sur laquelle Fisher, à un moment, il me semble, il bloque vraiment. Il essaie et il se rend compte qu'effectivement, oui, on a plus tendance ces temps-ci, par les temps qui courent, malheureusement, à se dire la fin du monde, ouais, peut-être qu'il y a nous pas en nez. Par contre, la fin du capitalisme, on est très peu à se dire qu'il y a nous pas en nez. Et en fait, lui, il commence à se demander pourquoi, comment on en est arrivé là, en fait, comment on en est arrivé, parce qu'il faut savoir que, enfin, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le capitalisme, c'est une construction humaine. Comme toutes les constructions humaines, elle a une date de péremption. Enfin, ça c'est avéré. Voilà, le capitalisme va pas durer toujours, quoi. Enfin, mais on est tellement dedans et on est tellement dans. Voilà, on est dedans jusqu'au cou. En gros, le réalisme capitaliste, c'est ça, c'est noter qu'on est dedans jusqu'au cou. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dedans dans nos rapports entre, pas juste au travail. En fait, c'est vraiment bouger la ligne, en fait, de. Comment dire, pour certains théoriciens politiques, en fait, à un moment, le nœud des luttes se situait au travail, quoi. C'était vraiment là que se situait.
Avec les luttes ouvrières, années 60.
Voilà, les luttes ouvrières, les luttes avec les patrons, les revendications dans les cas les plus chouettes d'autogestion d'une usine, etc. Mais c'est pas pour dire que ça, c'est caduque, c'est juste pour dire que. Les rapports qu'il y avait au travail, à l'usine, dans les bureaux, aujourd'hui, ils nous contaminent partout, quoi. Donc dans les rapports entre amis, dans la façon dont on fait de l'art ou de la musique, dans la façon dont... Moi, je trouve que c'est particulièrement flagrant, les théories de Mark Fisher, quand tu te retrouves sur Instagram ou sur Facebook ou sur un de ses réseaux sociaux. Tu rentres dans une logique de compte, tu vois, de comptage, quoi, de nombre de likes, de nombre d'abonnés. Moi-même, je m'en rends compte, hein, j'utilise ces trucs et malgré moi, je suis pas plus fort qu'un autre, je me laisse avoir.
Sur du résultat, même dans l'artistique, en
ouais,
fait.
Sur du résultat, sur tout ce qui se compte et tout ce. Enfin, ouais, voilà. Et en gros, lui, c'est de dire que ça touche les rapports amoureux, ça touche la psychiatrie, oui, ça touche partout, ouais. la santé, c'est tout, quoi. Voilà ce qu'il veut dire, c'est que ça. Faut se rendre compte, en fait, que voilà, le capitalisme, c'est aussi. Je vais pas dire avant tout, mais c'est aussi dans nos têtes, quoi. Voilà. Qu'on a grandi là-dedans, qu'on a été.
Centre bien culturel.
Et... Voilà. Et donc ça, c'est vraiment donc dans le réalisme capitaliste, Mark Fisher, lui son truc, c'est de prendre des exemples dans la culture pop, dans les films, dans la musique, dans les livres, dans la fiction, pour montrer à quel point en fait on nous vend tout le temps cette idéologie, quoi.
Après, il y a est-ce que du coup lui, même s'il n'a pas vraiment eu le temps de bien le mettre sur papier, mais il a une intuition et une sorte de porte de sortie à ça, qu'il appelle acide communisme, justement, quoi.
Ouais, ouais.
de convergence entre cette lutte des classes, une culture psychédélique. On, et il y voit avec notre génération aujourd'hui, peut-être, enfin une convergence entre tout ça, et peut-être une prise de conscience.
Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, là, tu l'as bien dit. En gros, oui, c'est ça. Il espère une convergence que lui, il appelle acide communisme, et qui est le nom d'un essai qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il s'est foutu en l'air, ce con-là. Et il y a un côté vraiment frustrant là-dedans, parce que le mec a passé des années à théoriser sur ce qu'on vivait, en gros, d'une façon que moi je trouve plutôt convaincante et que pas mal de gens apparemment ont trouvé convaincante. Et au moment de filer la solution, il écrit 20 pages et puis il se suicide, quoi. Voilà, donc c'est quand même très ironique, je trouve, et triste. Après, je trouve même dans ces 20 pages, il y a des pistes, et moi clairement ça m'a ouvert des portes dans la tête, et ça m'a vraiment fait cogiter. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, en gros, il écrit ça, alors je sais plus, je crois que c'est à la fin, je sais plus quand il est mort, là, j'ai pas des notes,
il y a 5-6 ans,
d'accord, ouais, donc il écrit ça, on va dire il y a 6-7 ans, enfin un peu, donc avant de mourir. Et voilà, il espère une convergence des luttes plus classiques sur le lieu de travail, etc., ce dont on parlait tout à l'heure, avec les luttes des mouvements, ce qu'on va appeler les minorités, quoi, que ce soit les luttes queer, les luttes des personnes racisées, les luttes contre les violences policières, etc. Il espère que tout ça parviennent à s'agréger et notamment par la pratique, quoi. Enfin, en étant ensemble dans tel lieu, dans telle manif, etc. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai l'impression, c'est peut-être faire preuve de trop d'optimisme, mais moi j'ai l'impression qu'en fait le Covid a été un sacré coup, et on n'a pas fini de réaliser à quel point a été un sacré coup de massue dans la notion de réalisme capitaliste. En fait, c'est-à-dire que pendant le réalisme capitaliste, en fait, c'est vraiment cette notion que voilà, ça va jamais s'arrêter, et que c'est ce truc dans lequel moi j'ai grandi, en tout cas j'ai 41 ans, j'ai grandi avec cette impression, même sans aimer ce système, et en étant contre, quoi, enfin en trouvant que les choses fonctionnaient pas, qu'il y avait un problème, etc. Mais quand même, j'avais l'impression que bah, je sais pas, par exemple, que la bouffe allait toujours arriver, et qu'en fait on était dans un pays où en fait on était à l'abri de tout, quoi, un truc comme ça. Et j'ai l'impression que le Covid, là-dessus, ça
un rappel un peu
de... ça a été un rappel, mais brutal, pour plein de gens, et du coup pas qu'en France, mais bon, on va rester un peu focalisé sur la France, que en fait le PQ et les pattes, ils arrivent pas comme ça par magie, oui, il y a une concurrence entre les pays, par exemple sur les vaccins. Le monde, il fonctionne pas par la finance, il fonctionne par des gens qui ramassent des poubelles et des gens qui te livrent ton courrier, etc., etc. Il y a eu un rappel de ça, et moi j'ai assez confiance quand même. Enfin, même si la période est très sombre et il y a plein de raisons d'être négatif, mais quand j'essaie de rester positif, je me dis j'ai assez confiance dans la génération qui a grandi en voyant ça, et puis qui voit aussi le changement climatique qui devient vraiment de plus en plus concret, et puis tous ces trucs sur les inégalités qu'il y a en ce moment.
Il y aura sûrement plus de prise de conscience maintenant.
Il
faut déclencher ça.
Et tu vois, Fischer, avant de mourir, malgré qu'il se soit suicidé, après c'était quelqu'un qui avait des problèmes de dépression de longue date, qui le disait, qui parlait beaucoup de santé mentale, etc. Donc il ne faut pas non plus juste le blâmer. C'est comme ça, il s'est tué. Mais il avait une forme d'optimiste là-dessus, quoi. Et lui-même, pourtant, il n'a pas connu la période Covid, etc. Mais il trouvait, donc, quand il est mort, donc on va dire à la fin des années 2010, pour être un peu vague, il le disait lui-même. Il disait, je pense qu'on est au début de la fin, en fait, pour le réalisme capitaliste. Ce qui ne veut pas dire le début de la fin, ça peut très bien par exemple aller vers le fascisme, hein. C'est pas juste être optimiste complètement béat là-dessus. Mais moi je pense, et je suis pas le seul à penser, qu'on est dans une période de changement qui peut prendre 10, 15, 20 ans, hein, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on n'est pas...
Qui peut sûrement prendre plusieurs chemins.
Qui peut prendre plusieurs chemins et qui va sûrement prendre plusieurs chemins. Mais voilà, je pense que le capitaliste, justement tel qu'on a connu ce qu'il appelle lui le réalisme capitaliste, et cette notion qu'il n'y a pas d'autre chose possible, moi je pense qu'on est à une époque où elle est en train de se casser la gueule tout doucement. Voilà.
Ça fait presque une note de fin un peu positive.
Ouais, voilà. Ouais, après, c'est il tient qu'à nous pour faire des choses pour que ça aille vers là ou là. Voilà.
Ah, super, merci.
De Lyon, c'était Litige avec leur morceau Samouraï, sorti en 2020. Nous terminerons maintenant avec les Lillois de Traître et leur titre Je m'emmerde.
Je m'ennuie, écrasé dans cette rue ténue, entrevue sur le pas. reste bien sur Radio Libertaire 89.4 FM. C'était l'émission Musique en lutte. Alors maintenant, un petit point bibliographie de tout ce qu'on a pu évoquer pendant cette émission, notamment avec ce que a pu écrire Alex Ratcharge, son fameux article Acide communisme punk radical sorti sur Audimat, le Audimat 19. Pour rappel, il est donc l'auteur de Raccourci vers nulle part aux éditions Tusitala, de Entre un et un néant et un autre aux éditions des Mondes Affaires, et enfin, rappelons qu'il est l'auteur du fanzine Ratcharge, de son nom. Le numéro 40 est sorti récemment, bientôt le 41. Évoquer d'autres ressources, il y a donc les désirs post-capitalistes de Mark Fisher, sorti sur Audimat récemment. On vous invite à le lire. Ainsi que son autre livre sorti un peu avant, Réalisme capitaliste, cette fois-ci sorti sur la maison d'édition Entremonde. Enfin, pour ouvrir un peu le sujet, je vous propose de lire le livre Ecopunk, sorti il y a à peu près 7 ans, je crois, de Fabien Hein et Dom Blake, sur le passager clandestin. Et pourquoi pas encore un regroupement de courts articles qui s'appelle « Penser avec le punk », un livre organisé par Catherine Guest sur la vie des idées. Je vous laisse maintenant écouter notre dernière partie qui parlera donc des événements à venir, des événements tournés autour de la musique et de la politique et des luttes. Je laisse la parole à Adrien.
Musique en lutte.
Alors, pour commencer, je vais vous parler du premier événement qui aura lieu le week-end du 30 septembre, toute la journée à la Parole Errance, pour fêter les 10 ans de la cantine des Pyrénées. C'est un lieu historique de lutte et de résistance locale, au programme un forum, des discussions, des concerts, des DJ sets et des surprises tout au long de la journée. Le 30 septembre, à partir de 19h, aura lieu la 12e édition de l'Aubergine Dub à Malakoff, le tout dans un lieu autogéré, l'Aubergine 3000. Pour cette édition, seront présents Airi IT, légende du sound system en France, en compagnie de Daman, du duo de sélectrices Zofa, et le sound system Article Roots. L'entrée, la nourriture ainsi que la boisson sont à prix libre. Les recettes du bar seront reversées à la coordination contre la répression et les violences policières. Et en connaissant le lieu, ça promet d'être vite rempli, je vous conseille donc de venir tôt. Le 6 octobre, à la mairie du 10e arrondissement de Paris, aura lieu le vernissage de l'exposition « Voyageuses, voyageurs, que veulent-ils ?» suivi d'une conférence musicale sur les gens du voyage dans la chanson française depuis 1960. Au travers de nombreux extraits de chansons, l'histoire des gens du voyage, l'évolution de leur statut, leur culture, leurs difficultés au quotidien seront portées par la voix du conférencier Jean-Claude Rouméga, accompagné par Alain Benesti. L'événement aura lieu à 19h15 et l'entrée est libre. Le 7 et 8 octobre, de 11h à 23h30, la prairie des Murs à pêche à Montreuil vous accueillera pour les estivales de la permaculture. Pendant ces journées, vous pourrez assister à des débats, des échanges et des conférences autour de la question des sols. Vous pourrez aussi profiter d'une variété de concerts allant de la chanson à texte au punk anarchiste folk. Le tout est à prix libre et conscient. Tous ces événements sont à retrouver en détail sur Musique en lutte au pluriel, pour musique, .noblog.org. Sur la page dédiée de l'émission de ce mois. On vous laisse sur un dernier morceau de Conflict et on se retrouve pour la deuxième émission jeudi 26 octobre à 20h. Let's go.
volent au vent, où les feuilles volent au vent, si jolies mignonnes, où les feuilles volent au vent, si mignonnement. Le fils du roi s'en va les ramassant, le fils du roi s'en va les ramassant, s'en va les ramassant, si jolies mignonnes, s'en va les ramassant, si mignonnement. Il en ramasse à temps qu'il en remplit ses gants, il en ramasse à temps qu'il en remplit ses gants, qu'il en remplit ses gants si jolie mignonne, qu'il en remplit ses gants si mignonnement. Il les porte à sa mie pour lui faire un présent, il les porte à sa mie pour lui faire un présent, pour lui faire un présent si jolie mignonne, pour lui faire un présent si mignonnement. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici des gants. Tenez, tenez, dit-il, tenez, voici des gants. Tenez, voici des gants, si jolies mignonnes. Tenez, voici des gants, si mignonnement. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Vous ne les mettrez guère que quatre fois par an. Que quatre fois par an, si jolies mignonnes. Que quatre fois par an, si mignonnement. À Pâques, à la Toussaint, Noël et la Saint-Jean. À Pâques, à la Toussaint, Noël et la Saint-Jean. Noël et la Saint-Jean, si jolie mignonne. Noël et la Saint-Jean, si mignonnement.
Perdu l'envie,
t'es beau sans le faire exprès. La mer parlait à mes colères, et moi qui la croyais fâchée. Quel est l'homme que l'on sable? Est-ce un beau mec d'amant ou un laser de fable? Je regardais tout à l'heure des chevaux sans patron.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Liberté, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire, 89.4. C'est Epsilonia. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia,
Epsilonia, j'ai un écho. Moi j'ai un écho, coco.
Epsilonia,
Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, Epsilonia, oh l'écho, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho. Bonsoir, vous êtes sur Epsilonia, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho, pourquoi j'ai un écho. Bonsoir,
Vous êtes sur Epsilonia. Non, c'est pas ça. Ah oui, voilà, sur antenne, merci, ouais, parce que j'étais sur Tuner. Merci, alors je voulais souhaiter la bienvenue à Musique en Lutte, une nouvelle émission qui donc a débuté ce soir, qui est juste avant nous. Et vous faites quoi exactement?
C'est musique et engagement politique sur les lieux et les artistes qui font vivre une musique libertaire et contre la marchandisation du monde.
Bah, c'est un peu facile de faire ça sur Radio Libertaire, faut faire ça sur... non, je rigole. Bah, bienvenue et au mois prochain, donc c'est tous les 4 jeudis a priori, c'est ça? Voilà. Tous les 4e jeudi de chaque mois.
À 20h30, exactement.
Voilà, bah, super, mais comme ça on va se croiser.
Merci.
Oui, c'est bien. Et bah, voilà, c'est Epsilonia Mix qui commence, alors, et ce soir, une spéciale Cree Recordings, c'est un label américain des années 50-60, qui a été un des pionniers de la musique électronique à produire vraiment des compositeurs un peu hors normes. Alors des classiques, mais aussi des outsiders. Et voilà, il y aura plusieurs volumes parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Est-ce que je fais le tour? Donc vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire, 89.4 FM, la voix sans Dieu ni maître ni publicity. Donc dans cette actualité foisonnante entre néo-nazis, russo-ukrainos, je sais pas quoi, la Corse, l'essence, tout ça, on va écouter de la musique, hein. Ça va nous faire du bien. Donc qu'est-ce qu'on a, tiens, dans notre besace aujourd'hui? Oh, ces trucs américains, les gens qui sauvent le monde. Alors on a Satan Sermon and Other Electronic Fantasies par Todd. Gary Todd par Daria Semegan par Jan Greenwald. C'est que des compiles, hein. Donc ce soir c'est une spéciale compile. Après je ferai un autre volume Cree avec des pas compiles. On a Ragnar Gripper, Ronald Pereira, Bengt Emil Jonsson, John Melby, les grands classiques de la musique électronique et concrète américaine, donc avec Vladimir Usachevsky, Otto Luening et Mel Powell. Ensuite, on a du saxophone, mais traité électroniquement avec Barton McLean. C'est lui tout seul ou avec sa femme? Non, c'est lui tout seul. Carl Korte, mais je pense que je vais juste mettre du Barton McLean. Et peut-être du Kevin Hanlon pour saxophone et tape delays. Nous avons quoi? William Matthews, Ramon Zupko, Charles Dodge, Bülent Arel, Benjamin Boretz, Trihal, Hudson McLellan, donc Joseph Hudson, Richard Trihal, Randall McLellan, une autre compilation de musique électronique pour le American Composers Alliance Recording Award avec Arthur Krieger, William Matthews encore, Elias Tannenbaum, un autre disque, une autre compilation de musique électronique, donc avec là cette fois Robert Seeley, Alfredo del Monaco,